Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Dans Sans Rendez-vous, il est lui ponctuel, toujours au rendez-vous pour le coup, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va parler alimentation et immunité. L'automne est là et le cortège des virus saisonniers qui l'accompagne aussi, avec même un qui nous enquiquine un peu plus particulièrement, ça je vous apprends rien. Alors que faut-il mettre dans son assiette pour garder de bonnes défenses immunitaires ? Que faut-il éviter pour ne pas les déprimer ? On vous dira tout et pour cela, notre invitée, ce sera le docteur Laurence Plumet. Elle est médecin nutritionniste et fondatrice d'EPM Nutrition, l'école de napsothérapie. On vous expliquera aussi au passage ce que c'est bien sûr la napsothérapie. Ensuite, nous sommes vendredi et le vendredi, on prend soin de notre apparence avec la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Aujourd'hui, il va nous apprendre à bien nous laver, nous nettoyer le visage. C'est la base, vous direz, un point de départ pour une peau sans imperfection et un teint lumineux. On en a bien besoin en ce moment. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Elle nous expliquera précisément ce qu'est l'anorgasmie. Et vous verrez, ce n'est pas qu'un problème de femme.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par cette question qui nous a été posée par Myriam.
Bonjour Mélanie et Jimmy. J'avais une question, je voulais savoir si on pouvait faire de l'apnée du sommeil quand on est enfant, car je pensais que c'était que pour les hommes en surpoids. C'est quoi les risques d'ailleurs ?
Alors Jimmy, d'abord on va commencer donc par l'apnée du sommeil chez l'enfant. C'est vrai que ça peut paraître étonnant. Est-ce que c'est si fréquent ça ? Parce qu'elle a raison, Myriam, on a l'impression que c'est plutôt un trouble de l'homme bedonnant, l'homme d'âge mûr, mais non.
Alors c'est vrai que c'est bien connu chez l'adulte et très peu chez l'enfant. Et c'est vrai que chez l'enfant, c'est surtout sous-diagnostiqué. Si on s'intéresse aux petits-enfants, c'est quand même 3 à 4% des enfants qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Et on peut en avoir aussi chez le préadolescent et l'adolescent, c'est de 4 à 25% d'entre eux, avec évidemment des stades un peu différents. Donc c'est une maladie qui n'est pas si rare et encore une fois, qui est plutôt méconnue, tout le problème.
Alors comment on dépiste ça chez l'enfant petit ou un peu plus grand ? Est-ce que ça concerne par exemple les enfants qui ronflent ? Parce que ça, il y en a beaucoup des petits ronfleurs.
Exactement, c'est le point d'appel. C'est un enfant qui va ronfler, mais plus de 3 nuits par semaine, un ronflement qui est très bruyant, qu'on peut entendre porte fermée pendant plus de 3 mois et qui va faire aussi des pauses respiratoires, c'est-à-dire que tout d'un coup, il va bloquer sa respiration.
En apnée, hein,
une apnée, et puis il va la reprendre de façon bruyante. Et puis, il y a une inquiétude des parents. Les parents sentent qu'il se passe quelque chose et à ce moment-là, il faut les écouter et on fait des examens.
Et au-delà de la période de sommeil en elle-même, finalement, est-ce que les enfants qui sont concernés, peuvent avoir, comme les adultes, on en a déjà parlé, des répercussions dans leur vie de tous les jours, voire même sur leur santé générale ?
Exactement, plusieurs. Le premier, c'est évidemment la perte du poids et de la taille. Ils vont moins bien grandir puisque l'hormone de croissance est sécrétée durant la nuit. Comme ils vont être réveillés, ils vont moins en avoir. Et puis, il y a des retentissements sur des complications métaboliques. C'est des enfants qui vont avoir plus d'hypertension artérielle, un cholestérol qui va augmenter, un risque de résistance à l'insuline avec un facteur de risque supplémentaire de diabète. Et puis, il y a leur comportement qui change. C'est des enfants qui peuvent avoir des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire et parfois de l'hyperactivité.
Et donc des difficultés scolaires parfois.
Alors attention, tous les enfants hyperactifs n'ont pas un syndrome d'apnée du sommeil. Il faut regarder d'abord qu'ils aient des ronflements avant de dire qu'il pourrait y avoir un lien. Donc il y a un retentissement sur l'ensemble du bien-être de l'enfant.
Très rapidement, ça se traite comment chez l'enfant ?
On traite la cause. Les enfants tout petits, en règle générale, c'est lié à de grosses amygdales, les végétations. On va avoir l'ORL. Il peut y avoir un problème de dentition. Dans ces cas-là, c'est le dentiste qui s'en occupe. Et les plus grands, c'est souvent lié à de l'obésité. Donc il faut qu'on s'attaque au poids. Et puis parfois, on met l'appareillage, comme pour les adultes, la nuit pour mieux respirer.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question. Cette fois, alors, on a récupéré en fait plusieurs questions qu'on nous pose régulièrement ces dernières semaines. Beaucoup d'auditeurs nous demandent comment rester actif, sportif. C'est vrai qu'on s'est dit c'est une question pour vous Jimmy, ça évidemment, malgré le confinement, parce que c'est ça la question. Ils nous disent comment on fait du sport en extérieur, sachant qu'en plus on peut y aller qu'une heure a priori par
jour. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que pendant la première vague, il y avait une surprescription d'anxiolytiques, plus 1 million d'ordonnances supplémentaires. Et là, le moral des Français n'est pas bon, on va moins bien, c'est normal, mais on va s'en sortir. Et donc, il ne faut pas remplacer le sport par des anxiolytiques. Ne sombrez pas dans l'alcool en disant que ça va m'aider à aller mieux. L'activité physique, quelle qu'elle soit, ça peut être simplement de la marche, pourra vous aider à aller mieux. Ça va détendre vos muscles, ça va au contraire activer votre système cardiovasculaire. En journée, vous serez plus en forme et la nuit, vous dormirez mieux.
Donc le sport comme meilleur anxiolytique de la planète, ce que vous nous dites. Le problème, c'est que, donc, je vous le disais, on est un peu limité, vous le savez aussi Jimmy, 1 heure par jour maximum dehors, mais vous dites, je crois notamment pour les gens qui ont des pathologies chroniques, déjà cette heure-là, elle est importante et elle est suffisante.
Le sport est bénéfique pour tout le monde, et encore plus chez les personnes qui ont des pathologies chroniques. Si jamais vous avez de l'hypertension artérielle ou du diabète, vous êtes en télétravail, vous bougez moins, vous ne sortez plus le week-end, eh bien vos pathologies vont être déséquilibrées. Votre tension va être plus élevée, votre diabète moins bien équilibré puisque vous allez consommer moins de calories, éliminer moins de calories en journée, et donc vous allez aller moins bien. Donc si jamais vous avez une pathologie chronique, même des douleurs, une polyarthrite, un lumbago, peu importe vos problèmes.
Même si on a mal au dos, vous, pas de pitié, il faut sortir. Hein.
Au contraire, il faut marcher. L'inactivité, c'est l'ennemi de nos articulations. Donc ne restez pas à la maison. Même la marche, je vous ai dit, normalement, l'objectif, c'est 8000 pas, 10 000 pas par jour. En moyenne, on en fait 4000 quand tout va bien. Donc on va être
très certainement... 8000, hein.
Vous êtes à 8000, vous êtes un exemple. C'est vrai, Mélanie, vous marchez beaucoup, c'est une bonne chose. Mais voilà, il ne faut pas se relâcher. Le confinement, on en a encore pour quelques semaines. Ça ira mieux ensuite, mais pendant ce temps, activez-vous.
Très bien. Et le secret, c'est la régularité aussi. Hein.
Exactement. Tous les jours, si on peut, allez, 2-3 fois par semaine. Et même chez les enfants, une heure par jour d'activité pour les enfants, c'est nécessaire quand ils ne vont pas à l'école.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous pour ce dossier du jour le docteur Laurence Plumet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste et fondatrice d'EPM Nutrition, l'école de napsothérapie. Alors avant de commencer d'abord cette émission, c'est quoi cette école et cette napsothérapie justement?
Alors la napsothérapie, c'est la formation à l'accompagnement personnel dans le domaine de la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Parce que ce sont les trois piliers de la santé. Et au titre de la prévention, pour l'instant, il n'existe absolument aucun expert qui maîtrise les trois.
Et vous allez en former des experts comme ça qui vont maîtriser les trois disciplines.
Voilà, tout à fait. Ça demande quand même un an de travail, de formation. Tout est à distance. Et donc, c'est quelqu'un qui saura écouter, auditer, comprendre les erreurs de comportement et savoir donner des conseils personnalisés à chacun dans ces trois domaines.
Alors, Laurent, si vous invitez aujourd'hui, c'est pour nous aider à prendre soin de nos défenses immunitaires par le biais de l'alimentation. Parce que c'est vraiment prouvé, si on mange mal ou pas équilibré, on a des carences et donc de moins bonnes défenses immunitaires.
Oui, tout à fait, parce que les cellules des défenses immunitaires sont comme toutes les cellules, elles ont besoin de nutriments, de protéines, de lipides essentiels, de glucose, de minéraux, de vitamines pour fonctionner au mieux. Donc à partir du moment où on a une carence, quelle qu'elle soit, eh bien ces cellules vont se trouver comme les autres, un peu affaiblies, et elles seront moins efficaces. Donc nous avons donc tout intérêt à bien manger, de façon variée, suffisante et équilibrée, pour ne pas avoir de carence. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas sauter de repas et qu'il faut manger un petit peu de tout. Mais parmi tous ces aliments, il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot, car dans les recommandations, il y a deux vitamines qui sont parues particulièrement impactantes dans le domaine des défenses immunitaires, c'est la vitamine C et la vitamine D.
On va détailler tout ça après, mais on est d'accord, une petite nuance pour démarrer cette émission, on est d'accord que tout ce que vous allez nous expliquer sur la vitamine C, la vitamine D et d'autres, ça ne nous empêche pas de devoir être très vigilant vis-à-vis des gestes barrières.
Ah mais bien sûr, les gestes barrières sont là pour nous éviter d'attraper le virus. Porter le masque, se mettre du gel en permanence, la distanciation, etc. Bon, ça c'est pour éviter d'attraper le virus. Mais si on l'a, ce virus, eh bien la qualité de l'alimentation fera la différence entre quelqu'un qui peut faire éventuellement une forme sévère pour des raisons X, mais l'alimentation peut jouer un rôle, et quelqu'un qui ferait une forme bénigne.
Alors on va commencer un petit peu à voir le fonctionnement du système immunitaire de façon schématique. En première ligne, il y a ce qu'on appelle les macrophages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que c'est?
Alors oui, dans l'immunité, on va faire un petit cours, hein, mais ça on aime ça. Il y a l'immunité innée et l'immunité acquise. L'immunité innée, ce sont des globules blancs, dont les macrophages, qui de toute façon sont là en permanence pour veiller, et dès qu'ils voient arriver un intrus, que ce soit une bactérie ou un virus, se précipitent dessus pour aller le détruire. Il y a ça, et puis des natural killers, voilà. Donc bref, allez hop, c'est opération destruction. Ça, c'est l'immunité innée. Et puis, il y a l'immunité acquise qui repose sur ce qu'on appelle des lymphocytes, qui sont également des globules blancs. Il y a deux catégories de lymphocytes. Les lymphocytes B qui vont sécréter des anticorps, qui sont un peu comme des flèches qui vont aller attaquer les antigènes du virus et le détruire. Et puis, les lymphocytes T qui sont responsables de l'immunité cellulaire, qui sont comme des gros gloutons qui vont se précipiter sur le virus ou la bactérie pour l'avaler et le détruire. Mmh. Et cette immunité est dite acquise, car ces cellules vont s'en souvenir, ils vont garder une mémoire de ça. Ce qui fait qu'après une première grosse infection, en général, on n'en refait pas une deuxième, ou en tout cas beaucoup moins forte, parce que nos lymphocytes sont déjà tout prêts à agir, et c'est également le principe du vaccin.
Et tout ce que vous venez de décrire, a priori, bon, on dispose de toutes ces armes si on est bon, évidemment en bonne santé, si on ne tombe pas malade, mais pour que tout ça fonctionne au mieux, toute notre vie, là, pour le coup, ça dépend aussi de nos comportements, je crois. Et donc, ça, on y revient, hein, cette napsothérapie, finalement, sommeil, alimentation, activité physique, tout ça, ça reste très important pour que cette immunité reste en bonne forme.
Exactement,
quoi.
Les trois sont liés, car on voit bien que les gens qui, par exemple, qui sont en manque de sommeil ont de moins bonnes défenses immunitaires. Ceux qui sont sédentaires ont de moins bonnes défenses immunitaires que les gens qui sont actifs ou un peu sportifs. Et ceux qui mangent mal ont de moins bonnes défenses immunitaires que ceux qui mangent bien. Donc, il faut être bien présent sur les trois.
Et justement, si on s'intéresse aux personnes peut-être qui mangent mal et qui, par conséquent, sont en situation d'obésité, c'est démontré, eh bien, les personnes obèses ont un système immunitaire qui est plus fragile que les autres. Est-ce qu'on a une explication à ça ?
Oh, il y a plusieurs explications.
Des hypothèses, au moins.
Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est très difficile de trouver le lien direct. Ils ne sont pas tous déficients sur le plan immunitaire, mais c'est vrai que, par définition, les gens qui sont en surpoids sont souvent des gens qui mangent mal, des aliments ultra transformés, qui sont pauvres sur le plan de la densité nutritionnelle, peu de minéraux, peu de vitamines, et qui donc sont souvent carencés. On peut manger beaucoup, par exemple, et mal, c'est-à-dire être carencé en plein de vitamines, et donc être déficient sur le plan alimentaire. D'autre part, les obèses ont une réserve de graisse qui est importante. Et quand nous parlerons de la vitamine D, nous savons que c'est une vitamine qui est liposoluble. C'est-à-dire qu'elle est soluble dans le gras. Et on sait très bien que les gens qui sont obèses ont moins de vitamine D dans le sang car elle est captée par la graisse abdominale. Et donc, c'est comme si elle était isolée dans un coin du corps et donc beaucoup moins efficace pour jouer son rôle sur la régulation immunitaire.
Docteur Plumet, même chose peut-être avec certaines maladies comme le diabète ou l'hypertension. Oui. Ça a un impact sur la santé globale, mais aussi sur notre fragilité vis-à-vis des virus. C'est pour ça, par exemple, que c'est très important, malgré tous les conseils qu'on va donner aujourd'hui, de rappeler que c'est important aussi, par exemple, contre la grippe, de se faire vacciner, surtout quand on est fragile. Hein.
Absolument.
Ça ne suffira pas ce qu'on va mettre dans notre assiette pour combattre la grippe,
par exemple.
Mais bien
sûr que non, bien sûr, il faut se faire vacciner. Ça, j'insiste bien là-dessus, je ne suis pas la seule.
Pourquoi lorsqu'on est diabétique ou hypertendu, par exemple, là aussi, il y a l'immunité qui est finalement plus fragile ?
Parce que par définition, le diabétique a des troubles de la glycémie. Donc, il a des taux de glucose dans le sang qui sont plus élevés et parfois même dans les urines. Quand le diabète est mal équilibré, ça passe même dans les urines. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le diabétique a souvent des infections urinaires. Parce que les bactéries et les virus adorent le sucre. C'est aussi leur carburant énergétique. Et donc, c'est la raison pour laquelle le diabétique doit faire particulièrement attention et que non seulement il doit respecter tous ces gestes barrières, bien manger, bien équilibrer son diabète, donc bien prendre son traitement. Et ça, en le général, il faut bien insister là-dessus, il faut que les gens se soignent. Quelqu'un qui est malade et qui ne prend pas ses médicaments ou qui ne va pas à ses consultations médicales est quelqu'un qui peut déstabiliser ses capacités de défense immunitaire et qui se fragilise. Donc il faut bien se soigner et évidemment se vacciner.
Là, on parle de l'immunité, mais c'est vrai qu'un diabétique qui mange bien va avoir aussi un diabète mieux régulé, mieux équilibré. Donc finalement, ce n'est pas qu'une question d'immunité. Prendre soin de son assiette, c'est prendre soin de sa santé de façon générale.
Bien sûr, ça fait partie du traitement des pathologies. L'alimentation joue un rôle très important en plus du traitement.
Docteur Plumet, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité dans ce studio, c'est vous, docteur Laurence Plumet. Vous êtes médecin nutritionniste et fondatrice de PM Nutrition, l'école de napsothérapie. Alors, on va détailler à présent les indispensables de notre assiette pour bien stimuler cette immunité qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par le rôle très important de la vitamine C. D'abord, c'est quoi cette vitamine ?
Alors c'est une vitamine qui a la capacité d'être antioxydante, c'est-à-dire que dans notre corps, quand il y a des radicaux libres, c'est-à-dire des atomes d'oxygène qui sont très instables, s'il n'y a rien pour les arrêter, ils vont bombarder notre matériel génétique et finalement altérer le fonctionnement de nos cellules. Cette vitamine C, elle a la capacité, c'est un peu un kamikaze qui nous sauve, c'est elle qui va s'auto-bombarder avec ses radicaux libres pour éviter que notre matériel génétique ne le soit. C'est comme ça qu'elle est antioxydante. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous sommes confrontés à une infection, il nous faut beaucoup de vitamine C pour aider nos globules blancs à être efficaces.
Et donc, elle empêche aussi, elle aurait d'autres rôles sur nos organes, elle empêche aussi le vieillissement, c'est ça ? Parce que quand vous dites antioxydante, on comprend que c'est contre l'usure prématurée, on pense qu'ils
c'est anti-vieillissement.
C'est anti-vieillissement quand on parle d'antioxydants.
Oui, alors, il y a en fait des effets à court terme, à moyen terme et à long terme. Le court terme, on va revenir sur le processus de l'infection, qui est gros générateur de radicaux libres. Mais effectivement, il y a le moyen et long terme, et le fait d'avoir des apports suffisants de vitamine C, okay, Linus Pauling, qui a été le découvreur de la vitamine C, il s'en prenait quasiment un gramme, c'est même 10 fois le besoin quotidien.
Oui.
Bon, bah, il est mort à 99 ans, je crois. Bon, peut-être que ça n'avait rien à voir, mais en tout cas, c'est bon de le savoir. Mais c'est vrai que plus on protège finalement notre matériel génétique, c'est-à-dire l'ADN de nos cellules, plus nos cellules vivront longtemps. On est bien d'accord. Mais on pourrait peut-être revenir justement à l'infection.
Et alors oui, justement, dans le cadre de notre système immunitaire, finalement, le rôle de cette vitamine C, je ne sais pas, sur nos globules, par exemple, c'est quoi ?
Alors, les globules blancs, quand ils sont en pleine bataille, il faut les imaginer là, sur le terrain, confrontés aux virus ou aux bactéries, il y a beaucoup, une production d'oxygène importante. Il y a beaucoup de radicaux libres qui sont présents. Et donc, on voit que la teneur en vitamine C des globules blancs chute parce que le globule blanc est obligé d'en consommer beaucoup pour lutter contre ces radicaux libres qui le bombardent de partout. Donc la teneur en vitamine C des globules blancs baisse. Et donc si la personne est en carence de vitamine C, elle va se retrouver avec des globules blancs qui seront un peu fatigués. Raison pour laquelle, tous les jours, car les réserves de vitamine C ne sont pas des réserves durables d'une journée à l'autre, tous les jours, il faut avoir au moins ces 100 mg de vitamine C quotidien pour que nos globules blancs soient vraiment toniques et efficaces.
Du coup, si on en consomme plus lorsqu'on a une infection, ça veut dire que si jamais on a une rhinopharyngite, la Covid, le Covid, peu importe, eh bien, il faudrait se supplémenter, en prendre un peu plus ?
Alors déjà, essayons de couvrir notre besoin quotidien qui est de 100 mg. Ça, on peut y arriver. On sait que parmi les fruits, on connaît les agrumes, à manger ou à boire. 2 oranges par jour, par exemple, couvrent quasiment le besoin quotidien en vitamine C, ou 2 kiwi. On peut aussi boire les oranges, c'est-à-dire que le matin, 1 verre de jus d'orange nous apporte plus de la moitié du besoin quotidien en vitamine C. Donc déjà, moi, je recommande de boire son verre de jus d'orange, qu'il soit pressé ou en bouteille, peu importe. C'est la même teneur en vitamine
C. C'est pas trop sucré, le jus d'orange ? Parce que parfois, on entend parler des jus qui seraient trop sucrés, qui vont mieux manger les fruits entiers. Quoi,
ah pas du tout, il n'y a jamais de sucre ajouté dans les jus en bouteille. Jamais, il n'y a que les sucres des fruits. Voilà. Et donc, on profite de leur richesse naturelle en vitamine C. Et puis, à côté, dans la journée, on va manger 1 ou 2 oranges supplémentaires pour avoir nos 3 fruits quotidiens.
Bon. Et en cas d'infection, comme il dit, est-ce qu'il faudrait en avoir plus ?
En cas d'infection, il peut être utile, effectivement, une fois qu'on a fait ça, de complémenter par un complément alimentaire. C'est de la vitamine C, autrement dit, ce sont des comprimés de vitamine C à sucer qui nous apportent 500 mg. Alors, on peut en prendre. Alors, si on en prend 500 mg alors que le besoin quotidien n'est que 200, pas de risque de surdosage. L'excédent est éliminé dans les urines, mais au moins on fait le plein dans nos globules blancs. Donc moi, je trouve ça plutôt bien de prendre son petit comprimé en plus, pourquoi pas. Alors on peut en prendre que 250 tous les jours, couper son comprimé, en prendre un demi chaque jour. Mais voilà.
Mais il y a des preuves sur la rhinopharyngite, comme l'exemple que donner du demi, ça m'a aidé à faire quoi ? Mieux guérir ?
C'est pas sélectif, effectivement, sur le virus dont nous parlons actuellement. Ce sont des défenses immunitaires globales qui concernent aussi bien les rhinopharyngites que toutes sortes de virus qui passent.
Il y a une méta-analyse, je crois, sur le sujet, sur les rhinopharyngites
particulièrement. Absolument. Où on voit que ceux qui ont un bon apport de vitamine C, finalement, font moins d'infections virales que ceux qui ont des carences en vitamine C. Donc, ça vaut le coup de manger ou de boire des agrumes. En plus, ça tombe bien. On est en saison d'hiver et ce sont des fruits de saison. Voilà. Donc, il faut faire le plein de ça. Exactement.
Malgré tout, je crois que c'est une vitamine qui est assez fragile. Et finalement, l'alimentation, c'est une bonne chose, mais elle peut être rapidement être détruite si on ne conserve pas les aliments, on ne les fait pas cuire de la bonne façon. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on pourrait être en carence, notamment.
Alors, la carence de vitamine C, oui, parce qu'un Français sur 2 ne consomme pas assez de vitamine C. Et ça, c'est parce que les Français ne mangent pas assez de légumes et de fruits. C'est terrible. On a beau répéter 5 fruits et légumes par jour.
Ça rentre pas.
La moitié est à moins de 2. Mais en revanche, les gens mangent pas assez de légumes, mais les gens aiment quand même manger des fruits. Et c'est pour ça que j'insiste sur les agrumes, parce que ça, c'est une bonne source. Et puis, c'est cru. La vitamine C est crue. Elle n'est pas cuite. Donc, on est sûr de la voir telle qu'elle est dans le fruit.
À part les agrumes, les oranges que vous avez citées, je crois qu'il y en a dans le persil.
Mais
alors, le persil, il faudra en consommer beaucoup. Libanais, là, c'est parfait. Moi, j'adore. Alors, c'est plein de persil.
Je vais vous citer les 3 légumes qui sont riches en vitamine C à condition que ce soit mangé cru.
Ouais.
Ce sont les choux, par exemple les salades de choux qu'on mange au restaurant japonais.
Très bon.
Le chou blanc cru, c'est riche en vitamine C. Le réfort, le fameux radis noir, on s'en prend des petites tranches comme ça sur du pain beurré avec un tout petit peu de sel de Guérande, c'est absolument délicieux. Et puis les poivrons. Et le poivron rouge, par exemple, est 2 fois plus riche en vitamine C que le poivron vert, à manger cru aussi dans les salades composées.
Et je crois qu'il y a aussi les cerises acérola qui sont très riches en vitamine
tout
C.
Tout à fait.
Mais c'est pas la saison. Mais elles existent sous forme de poudre ou est-ce que ça peut marcher aussi, ça ?
Oui, bien sûr, mais moi je préfère toujours, quand on va faire son marché, ce qu'on a devant
c'est
nous.
C'est,
c'est très mangé aux Antilles, par exemple. Ça mange pas mal.
Pour terminer sur la complémentation en vitamine C, c'est à cette période qu'il faut le faire ? C'est mieux en hiver, du coup, ou est-ce que c'est toute l'année ? Enfin, qu'est-ce que vous conseillez ?
Ah bah, oui, puisque c'est le moment où on est le plus bombardé de virus. Hein. Donc oui, c'est le moment de faire ses cures, de bien manger et de faire sa petite cure.
Parfait, docteur Plumet, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité en studio avec nous, c'est le docteur Laurence Plumet. Vous êtes, je rappelle, donc médecin nutritionniste et fondatrice d'EPM Nutrition, l'école de napsothérapie. Alors aujourd'hui, on parle avec vous d'alimentation et d'immunité. On a dit tout à l'heure que le jus d'orange pouvait présenter un intérêt, au moins pour la vitamine C, mais pas seulement. C'est important de boire ce petit verre de jus d'orange le matin aussi parce qu'il contient de l'hespéridine, je l'ai bien dit.
Tout à fait.
C'est quoi ça, l'hespéridine ?
Alors l'hespéridine, eh bien, c'est une molécule qui fait partie de la vaste famille des polyphénols. Alors les polyphénols, on ne connaît pas encore très bien, ce n'est pas encore très médiatisé, mais ça va l'être. Parce que là-dedans, c'est une vaste famille où il y a plein de petites molécules qui ont également un rôle antioxydant. Et il se trouve que l'hespéridine en fait partie et qu'elle se trouve également dans l'orange et dans le jus d'orange, en des quantités qui sont égales à celles de la vitamine C, c'est-à-dire 30 à 40 mg pour 100 ml. Et donc, cette hespéridine, elle a démontré finalement des propriétés très intéressantes, parce qu'en laboratoire, ils se sont aperçus qu'à certaines concentrations, elle pouvait freiner la réplication du virus au sein de la cellule. Je parle du virus de la COVID-19, du SARS-CoV-2.
Ah oui, oui.
Voilà. Donc,
c'est intéressant.
Cette molécule, vous vous rendez compte, freine à des doses suffisantes la réplication du virus dans les cellules.
Et ce qui est rigolo, c'est que vous conseillez, là, pour le coup, pour avoir plein d'hespéridine, de plutôt acheter du jus d'orange en bouteille et pas de presser soi-même son orange à la maison. Il y en a plus dans les bouteilles.
Oui, parce qu'en fait, il semblerait, vous savez, c'est comme un peu les huiles essentielles. L'hespéridine, elle est très probablement présente juste sous la peau, vous savez, sous le zeste de l'orange. Et les industriels pressent mieux les oranges que nous. Raison pour laquelle il y en a plus dans le jus d'orange en bouteille.
Alors pour terminer sur les antioxydants, ce qui est important pour notre immunité, c'est d'arrêter de compter sur le sel, vous dites. Et par contre, il faudrait qu'on aille un peu plus de bon cœur sur les herbes aromatiques. Les épices, on en met partout.
Ah, fantastique. Alors moi, je trouve qu'en France, on a du retard. Il y a des pays où ils utilisent les épices largue à manu dans les plats. Ce sont également des antioxydants fabuleux. Ça donne du goût. Et je trouve qu'au lieu de mettre beaucoup de sel, c'est une mauvaise habitude que nous avons en France, on a toujours sel, poivre, point barre. Bon, bah maintenant, il faut que... on devrait avoir d'ailleurs...
Sel, poivre, ciboulette, curry,
voilà.
Et compagnie.
Et si je faisais un petit jeu de mots, je dirais qu'au lieu d'avoir la salière et la poivrière sur la table, il faudrait l'épicière sur la table.
On va passer à une autre vitamine donc, qui est cruciale pour avoir de bonnes défenses immunitaires, c'est la vitamine D. Mmh. On sait que c'est bon pour les os, ça, les gens l'ont un petit peu en tête, mais on sait aujourd'hui que c'est bon aussi pour la stimulation de nos défenses immunitaires. De quelle façon ça fonctionne ?
Alors, elle est extraordinaire, cette vitamine, parce que plus on l'étudie, plus on trouve qu'elle a des rôles extrêmement importants. Entre autres, alors, et là, c'est très important pour dans le contexte actuel d'infection virale. Eh bien, il a été démontré que cette vitamine, premièrement, stimule l'activité des globules blancs. C'est très important. Ensuite, elle favorise l'équilibrage du système rénine-angiotensine. Je m'explique. Quand nous attrapons ce satané virus, eh bien, il va activer des récepteurs qui vont agir au niveau de notre rein pour augmenter notre pression artérielle et provoquer tous ces dommages collatéraux sur le cœur, sur les vaisseaux, voilà. Bon. Eh bien, la vitamine D va activer l'inverse, c'est-à-dire qu'elle va contrôler cette espèce de phénomène qui s'emballe et qui permettrait donc, grâce à un apport suffisant de vitamine D, d'éviter de développer des formes graves. Donc encore une fois, cette vitamine n'évite pas de tomber malade, mais elle permettrait d'éviter, à des doses suffisantes, de développer ces formes graves. Par ailleurs, nous avons tous entendu parler de ce fameux orage cytokinique dans les poumons.
Au 7e, au 8e jour, ces malades qui s'aggravent subitement.
C'est
effectivement.
Ça, c'est-à-dire qu'ils sécrètent énormément de molécules inflammatoires qui vont faire des dégâts énormes dans les poumons, provoquant cette insuffisance respiratoire et cette pneumonie galopante. Bon. Eh bien, la vitamine D a la capacité de freiner cet orage cytokinique. Donc, elle est bonne partout. Donc, il ne faut pas avoir de carence en vitamine D en ce moment.
Et justement, est-ce qu'on a des chiffres sur les carences des Français en vitamine D, puisqu'on en parle souvent, mais est-ce qu'il y a des zones où on a moins de vitamine D qu'ailleurs ?
Oui. Alors, en France, il y a un écart important entre le Nord et le Sud, puisque en fait, nous fabriquons de la vitamine D avec le soleil. Donc, il y a un peu moins de carence en vitamine D dans le Sud de la France. Mais au nord de la Loire, là, on est à peu près... Allez, je vais dire qu'en plein hiver, là ça commence déjà, mais en plein hiver, on est à peu près à entre 60 et 80% de la population qui présente des taux dans le sang de vitamine D bien inférieurs à ce qu'ils devraient être. Nous devrions tous avoir 30 nanogrammes de vitamine D par millilitre. Et il est très fréquent de trouver dans le sang des gens moins de 20 mg de vitamine D, voire même moins de 10. Ces gens-là sont extrêmement carencés en vitamine D. Et il y a urgence dans le contexte actuel de les supplémenter en vitamine D.
Alors, de quelle façon et toute l'année ou juste en ce moment, comment ça se passe, supplémentation déjà, en vitamine D?
Déjà, toute l'année, c'est une bonne chose parce qu'il y a l'action à court terme et puis il y a l'action à moyen et long terme. Mais puisque là, nous sommes dans l'urgence et dans le court terme avec cette année infection, eh bien, c'est plus particulièrement important, ce d'autant que les rayons du soleil, on ne peut plus compter dessus.
Donc, c'est des ampoules, des gouttes, c'est
non,
ça?
Non, alors déjà, il y a les aliments. Oui. Déjà, dans notre alimentation, on peut trouver beaucoup de choses. Il y a les poissons gras, saumon, hareng, maquereau, sardines. Ils sont très riches en vitamine D et en oméga 3, d'ailleurs, au passage. Et donc, il suffirait d'en manger 2 à 3 fois par semaine pour avoir notre content de vitamine D quotidien. Mais malheureusement, le comportement des Français n'est pas aussi idéal. Très rares sont les gens déjà qui en mangent une fois par semaine. Bon. Après, il y a des laitages qui sont enrichis en vitamine D. Donc ça, c'est très bien. Il y a des fromages blancs, il y a des laits qui sont enrichis en vitamine D et en calcium. Très bien. Et puis, il y a l'huile de foie de morue que l'on trouve en pharmacie.
Ça me fait remonter des souvenirs d'enfance affreux. Là.
Ah oui, mais elle n'est plus ce qu'elle était autrefois.
Ça pue, maintenant, ce truc. C'était
horrible. Non, plus du tout maintenant.
Nous, on avait droit à notre petite cuillère, mes frères et sœurs, tous les matins avant d'aller à l'école. Merci maman pour cette vitamine D. Mais c'était horrible.
Oui, mais ça, Mélanie, c'était avant.
D'accord, donc maintenant, elle n'a plus de goût, c'est ça? Alors ça, c'est la bonne nouvelle de ce vendredi.
Elle est même autrement, parce que là, l'huile de foie de morue, ça n'a pas envie.
Elle est même délicieusement citronnée. On la trouve en pharmacie. Et c'est franchement très agréable à consommer en vinaigrette, par exemple.
Je vais continuer à perpétuer cette tradition familiale et en acheter pour mes enfants vite. Alors.
Mais tout à fait, parce qu'en plus, la quantité est petite. Il suffit d'une cuillère à café par jour pour couvrir le besoin quotidien en vitamine D. Vous voyez?
Bon. Et on ne va pas sentir de la bouche le poisson pourri. Donc ça semble très bien.
Non, c'est très agréable. C'est très aromatique en bouche.
Là, vous m'avez appris
quelque chose. Donc c'est très utile et en plus, c'est riche en oméga 3.
Et ça veut dire que là, on a le droit de sortir en principe 1 heure par jour. Est-ce que ça peut être suffisant pour refaire son stock en vitamine D?
Non.
Ou ça ne suffit pas? Et
non.
Est-ce qu'il faut quand même sortir pour essayer d'avoir un peu de vitamine D au travers du soleil? Ou on ne mise pas là-dessus?
De toute façon, sortir, c'est nécessaire. Bon, maintenant, il ne faut pas compter fabriquer beaucoup de vitamine D. D'abord parce qu'on a ce masque qui nous couvre jusque sous les yeux. Donc, on ne va pas compter sur la peau du visage pour fabriquer de vitamine D. En plus, il fait froid, donc on est bien couvert. Donc, non.
On n'a ni les bras, ni le visage à l'air. Donc,
non,
effectivement,
on va fabriquer trop peu de vitamine D.
Donc, la supplémentation, et c'est comment la supplémentation?
La supplémentation, nous, en tant que praticien, on l'a fait couramment. Moi, personnellement, je demande très fréquemment des dosages de vitamine D et j'adapte ma prescription au taux dans le sang de vitamine D. Si la carence est importante, c'est une supplémentation.
C'est remboursé ce dosage de vitamine D, je crois.
Oui.
Ça dépend.
Si, dans certains contextes. Moi, je travaille beaucoup dans le domaine de la chirurgie bariatrique.
Oui, donc là,
c'est remboursé.
Voilà. Donc vous parlez quand même de dosage. Ça veut dire qu'avant de dire aux Français de se supplémenter, il faut faire un dosage, c'est-à-dire ne pas en prendre à l'aveugle. Parce que le paradoxe est là, parce que trop de vitamine D, si on se gave, ça peut être aussi nocif. Donc est-ce qu'on fait pour savoir où
d'abord,
se trouve le juste milieu?
On ne peut pas faire de l'automédication parce qu'il faut une ordonnance, première chose. Deuxième chose, la vitamine D qu'on trouve en ampoule est sous forme inactive. Donc de toute façon, même si le médecin faisait une erreur, et qu'il en prescrivait trop, il n'y aurait pas de danger pour la personne, car c'est hydroxylé dans le corps, et c'est le corps qui va réguler la première hydroxylation dans le foie et la deuxième hydroxylation dans le rein, avant que cette vitamine D ne soit active. Mais donc, il est parfaitement utile, même si on ne connaît pas son taux sanguin, même si on a affaire à un médecin qui ne nous a pas prescrit un dosage de vitamine D, il est parfaitement légitime néanmoins de lui demander des ampoules, car le taux le pourcentage de personnes qui en manquent est tellement élevé qu'on a tous intérêt à le faire.
Eh bien, merci beaucoup, docteur Plumet, pour tous vos conseils qui nous seront très précieux, surtout dans le contexte sanitaire actuel. On va les garder bien, bien en tête et les appliquer, bien sûr, au mieux. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, il est temps de soigner notre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque. Bonjour Benjamin, aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment bien se nettoyer le visage et pour commencer, pourquoi on doit absolument se le laver tous les jours ce visage.
Eh bien parce que Mélanie, votre visage est la partie du corps qui est la plus exposée. Donc, vous accumulez toute la journée de la poussière, des cellules mortes, des débris de sébum et même des particules de pollution qui vont venir s'incruster sous la peau. C'est donc pire si l'on habite en ville. Et si vous ne le faites pas, votre teint devient terne et votre peau va manquer de vitalité, comme l'explique la dermatologue Nina Ross.
On peut remarquer assez aisément quelqu'un qui se nettoie pas le visage. On a souvent des comédons, des points noirs, des pores un petit peu dilatés, encrassés, la peau un petit peu terne ou grisée. J'allais dire un petit peu comme les gens qui fument, qui ont une hygiène qui est souvent très correcte, hein, mais c'est vrai que ça en a cet aspect un petit peu voilé, grisé de la peau.
Les experts préconisent même de nettoyer son visage 2 fois par jour, le soir et le matin, car on transpire la nuit. Et si la peau du visage a besoin d'être chouchoutée au quotidien, ça vaut aussi bien pour les femmes que pour les hommes, Jimmy.
Ah oui, là, je tombe des nues. Alors justement,
Benjamin, c'est ça votre mauvaise mine, alors.
Je me lave le visage de temps en temps, mais j'utilise le même savon que celui pour les mains.
Ah ouais,
je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, d'où le carnage.
Absolument pas, Jimmy. C'est vrai, on pourrait se dire que la savonnette peut faire l'affaire pour le visage. Eh bien non, ce savon est trop agressif. Pour Sandrine Carliès, qui est formatrice pour les instituts de beauté Guinot, eh bien le savon pour les mains va abîmer votre visage.
On parle de pH pour la peau. La peau a un pH de 5,5. Il est très important de pouvoir respecter ce pH. Et le savon n'a pas un pH qui est, lui, adapté au nettoyage de la peau. Donc, il va venir l'irriter, il va venir l'endommager. Et en fait, on va venir en fait perturber l'équilibre, ce qu'on appelle le film hydrolipidique. On va venir l'endommager. Et c'est ce qui va faire qu'en fait, la peau ne va plus jouer ses fonctions de protection. Et donc, on va perdre en eau. On va avoir une peau qui va se sensibiliser davantage. Donc, au fur et à mesure, ce sont des peaux qui vont se fragiliser, qui vont se déshydrater et qui vont se déséquilibrer.
Alors, Benjamin, si on ne veut pas se décaper le visage avec la savonnette comme Jimmy, comment on se nettoie le visage? Avec quoi, je veux dire? Parce que des produits sur le marché, il y en a des tas. Il y a des laits, des gels, des eaux micellaires. On fait comment le tri là-dedans?
Alors, tout dépend de votre type de peau, Mélanie.
Parfait,
on ne lave pas une peau grasse de la même manière qu'une peau sèche. Explication du docteur Nina Ross.
On va utiliser préférentiellement sur les peaux grasses et les peaux non sensibles des gels moussants. Toutefois, chez les gens qui auraient des peaux sensibles, on va préférer la lotion micellaire ou le lait démaquillant. Moi, je conseille dans tous les cas de rincer ce produit, de ne pas le laisser sur la peau, même s'il est mentionné sur les emballages, utilisation sans rinçage. Le fait de ne pas le rincer, ça laisse sur la peau des ingrédients qui sont inutiles et qui peuvent être tout à fait irritants. Donc, on prend son lait de toilette ou sa lotion micellaire et après, un petit coup de brumisateur pour rincer. Ça, c'est vrai pour les gens qui ne supportent pas l'eau du robinet. Et si on n'a pas le budget pour le brumisateur, une petite bouteille d'eau minérale alimentaire à passer au coton, ça marche très bien aussi.
Et concernant les nettoyants avec des microbilles à l'intérieur, eh bien ça c'est à éviter, ça peut irriter les peaux les plus sensibles. Ça convient mieux aux hommes qui peuvent avoir des poils incarnés au niveau de la barbe.
Ah oui, je sais ce que c'est. Alors, si on veut utiliser
Benjamin...
C'est pas
moi qui l'ai dit, hein, c'est vous. Hein.
Oui, des poils incarnés sur la barbe, c'est moi. Mais effectivement, les poils incarnés, c'est vous aussi, Mélanie,
ah oui,
malheureusement, sans la barbe. Et si on veut utiliser des produits naturels, Benjamin, fait maison, est-ce que c'est possible?
Et oui, Jimmy, on peut utiliser certaines huiles le soir pour retirer tout le maquillage et avoir une peau nette. On écoute la recette maison de Pauline Dehaec, autrice du livre « Ma cosmétique minimaliste ».
Un démaquillage à l'huile végétale, et notamment l'huile de jojoba, qui est une huile qui est infinie sec, donc ça ne va pas du tout être compliqué à retirer, ça ne va pas avoir d'effet gras, et surtout ça ne pique pas dans les yeux. Donc il suffit juste de prendre un tout petit peu d'huile, de le passer sur le visage à l'aide des doigts, en incitant un peu sur les yeux. Et ensuite, on prend un carré démaquillant lavable, de préférence, c'est toujours mieux, et on le mouille, ce carré, et on le passe sur le visage. Ça permet d'enlever tout le maquillage et également d'enlever l'excédent d'huile.
Dernier conseil pour le lavage du visage, évitez les gants de toilette qui sont des nids à microbes. Évitez aussi certains accessoires comme les brosses qui sont trop décapantes. Au contraire, privilégiez vos mains propres. Attention, ça décolle suffisamment bien les petites impuretés et c'est plus naturel.
Merci beaucoup Benjamin pour cette chronique très pratique. On va vous écouter.
Sans rendez-vous,
15h-16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette ultime séquence de la semaine, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, alors pour bien terminer la semaine, aujourd'hui, on a dit qu'on allait faire sans orgasme. Vous allez nous parler d'une thématique. Oui, bon, ça va, c'était une petite...
C'était une mise en matière.
On voulait parler de l'anorgasmie, précisément. Attention, donc, qu'est-ce que c'est précisément que l'anorgasmie? Même si on comprend à peu près dans le nom, mais...
Oui, c'est ne pas vivre l'orgasme, c'est de ne pas en avoir, c'est de souffrir l'absence de l'orgasme. Enfin, quand je dis souffrir, ce n'est pas au sens de la douleur physique, mais bien psychique, parce qu'on peut avoir la curiosité de quelque chose qui n'advient pas.
Jimmy ?
Est-ce que ça touche plus les femmes, je suppose ? Parce que j'ai l'impression qu'un homme, c'est assez... C'est peut-être bête que je dis, mais...
Quand on a des questions sur les problèmes d'orgasme, en général, dans cette émission, c'est surtout des femmes.
On dit que c'est un homme, c'est mécanique, un homme qui n'éjacule pas, tout de suite, aura un problème grave, alors que... C'est peut-être qu'un problème de femme.
Pas du tout, mon cher Jimmy. Ah ouais, ça, c'est parce que vous réduisez l'éjaculation à un orgasme. Si vous saviez combien il y a des hommes qui ne le vivent pas, l'orgasme, ils vivent un plaisir éjaculatoire, un plaisir plus ou moins fort, un plaisir intense, un plaisir qui les fait lâcher prise, succomber tout d'un coup aux délices de la sexualité. Mais certains, pas du tout, ils éjaculent, mais ne sont pas dans le confort, voire dans la douleur.
Ah bon ?
La notion d'ailleurs, l'orgasme, on le distingue chez la femme entre donc l'absence de reconnaissance de sensation, les douceurs de la sensation, les plaisirs de la sexualité. Et de plaisir en plaisir, de jouissance en jouissance, on va vers un pic qui est l'orgasme. Et donc, on a tendance à penser que chez l'homme, dès lors qu'il va éjaculer, il y a le pic qui est l'orgasme.
Et
alors que ça n'est pas le cas pour tous.
Vous en apprenez bien, Catherine.
Mais vous avez la chance, vu que vous êtes tout d'un coup, vous soulevez vos sourcils, c'est que donc vous n'êtes pas dans ce cas-là, Jimmy, j'en suis ravie.
Alors, pas d'extrapolation, c'est juste que je suis impressionné sincèrement de vos explications, puisque je ne connaissais pas ça. C'est vrai qu'on distinguait, et pour moi, une éjaculation est synonyme d'un orgasme chez l'homme. Et on a l'impression que c'est juste de mécanique, alors finalement, c'est plus subtil que ça.
Bien sûr, parce que d'ailleurs, dans le monde asiatique, notamment pour tout ce qui est de l'art d'aimer, il y a justement l'invitation à ne pas éjaculer et pour autant à vivre l'intensité de la sexualité et des orgasmes sans l'éjaculation.
Alors Catherine,
ce qui n'est pas trop dans notre culture, bien sûr.
L'anorgasmie, Catherine, est-ce que c'est quelque chose qu'on a dès la naissance ? Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui n'ont jamais eu d'orgasme ou c'est quelque chose qui peut nous toucher brutalement du jour au lendemain, alors qu'avant tout allait bien et tout d'un coup on devient anorgasmique, c'est comme ça qu'on dit, oui.
Alors l'anorgasmie on l'a depuis la naissance, vous et moi aussi d'ailleurs, puisqu'à la naissance nous n'avons pas d'orgasme, nous sommes bien d'accord. Donc c'est bien sûr au courant de notre vie sexuelle que nous ouvrons le champ des possibilités. On ne fait pas l'amour la première fois avec un orgasme la première fois, ça se fait petit à petit. Oui, mais ce n'est pas la majorité, c'est une toute petite minorité en réalité, puisque dans un premier temps c'est vraiment une sorte d'excitation folle avec des tas de jouissance et l'orgasme se découvre au fur et à mesure des libertés qu'une femme s'accorde.
Ça veut dire que c'est pas la faute du partenaire, parce qu'on a tendance à dire si tu n'as pas d'orgasme, c'est que tu ne fais pas les choses correctement.
Alors ça peut bien sûr, parce que si on a rentre en plan, évidemment, c'est un peu difficile de pouvoir faire l'amour et d'être un peu tranquille. Bien sûr qu'il faut pas trop de maladresse en face. Tout ce qui peut être doux, délicat, évidemment, va permettre cet accès, la qualité aussi de la relation, puisque l'orgasme est aussi C'est un point de jonction entre ce qui se passe physiologiquement au niveau du système nerveux et puis l'interprétation, la liberté psychique.
Donc ça évidemment, peut être aussi de l'anorgasmie, y compris dans la masturbation, ou c'est forcément un truc de couple qui ne marche pas bien ?
Alors, il y a des femmes, ça ne marche nulle part. Et d'autres, ça marche dans le cadre de la masturbation. Et justement, comme elles recherchent exactement le même stimulus, elles ne le retrouvent pas dans le cadre du couple, puisque bien évidemment, un pénis ne va pas apporter ce qu'un doigt peut faire ou un godemiché, parce que ce n'est pas la même matière, ce n'est pas les mêmes mouvements, et qu'on ne peut pas non plus avoir un sifflet dans la bouche et dire à son partenaire plus à droite, plus à gauche. Et que donc, évidemment, ça implique plus d'abandon à l'autre, plus de confiance à l'autre. Et donc, c'est une part entre ce que l'homme va pouvoir offrir de possibilités et cette tranquillité qu'une femme doit s'accorder dans les bras de cet homme. Donc, il n'y a pas de mauvais amant, mais il peut y avoir de mauvais amants. L'orgasme n'est pas dû nécessairement à un mauvais amant, mais il peut y avoir aussi un homme qui s'y prend tellement mal, ne laisse aucune possibilité de communication et d'érotisation pour que, évidemment, cette femme puisse y parvenir.
Très bien, merci beaucoup Catherine. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, Jimmy. Je vous ai vu avec les sourcils en l'air un moment, donc c'est super.
C'est
merci Catherine, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Dans un instant, je vous laisse en compagnie de Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, on va parler des fous qui nous gouvernent.
Stéphane,
alors,
ne soyez pas dur avec le gouvernement. Je rappelle votre amitié qui vous lie. Faites attention à ce que vous
arrêtez. Non mais dans l'histoire, je parle pas d'aujourd'hui, même si bon, il y aurait beaucoup à en dire. Le roi Louis II de Bavière, le président Paul Deschanel,
c'est celui qui
est descendu
du train là.
Oui, en pyjama et pieds nus. Et vous avez trouvé un... Bon, on va avoir des soucis avec l'ambassade du Brésil. De qui vous voulez nous parler ?
Ah bah là, vous pouvez annuler vos prochaines vacances. l'été prochain à Rio, je vais vous parler de Jair Bolsonaro. Pas lui faire de cadeau, je vous le dis tout de suite.
Bon, je ne sais pas si vous, vous êtes fou, s'il y a un problème, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir. On peut peut-être vous aider.
Vite
en tout cas, si vous aimez la folie douce, je vous conseille d'écouter tout de suite Mathieu Noël et Stéphane Bern. Restez sur Europe 1.